Radio Prague, les informations.
Croissance 2010 revue à la hausse par la Banque centrale. Le vote sur le budget 2011 dans la Chambre des députés aura lieu en décembre prochain. Lubomir Zaorálek lance un avertissement contre la fermeture de représentations diplomatiques tchèques. La Banque centrale tchèque a annoncé jeudi à Prague avoir révisé à la hausse sa prévision de croissance pour 2010 à 1,6% contre sa prévision précédente de 1,4% publiée fin avril. Le ministère tchèque des Finances table lui aussi sur une hausse du produit intérieur brut de 1,6% à la fin de l'exercice 2010. En 2011, la croissance tchèque devrait se chiffrer à 1,8% avant de grimper à 2,9% en 2012, selon cette nouvelle prévision de la Banque nationale tchèque. Le projet de budget de l'État pour l'année 2011 sera soumis à la Chambre des députés en première lecture en octobre prochain. Le vote final sur le budget est prévu pour le mois de décembre, une déclaration de la présidente de la Chambre des députés, Miroslava Němcová. Les députés se réuniront aussi mardi prochain pour le vote de confiance au gouvernement du Premier ministre Petr Nečas. Vu la majorité confortable dont la coalition gouvernementale jouit dans la Chambre des députés, il est plus que probable que le nouveau cabinet obtiendra la confiance de la Chambre. Si le gouvernement tchèque ne réagit pas aux arguments des syndicats et cherchera à imposer à tout prix ses plans d'austérité, les syndicats procéderont à des protestations. C'est ce que les représentants des syndicats ont déclaré ce vendredi lors d'une conférence de presse de la Confédération syndicale tchéco-morave. Notre objectif est de trouver un compromis. Si nos arguments ne sont pas respectés, nous passerons à l'action, a déclaré Josef Středula, président de l'Union syndicale Kovo, qui est la plus importante union syndicale du pays. Selon le Premier ministre Petr Nečas, le gouvernement est prêt à ouvrir avec les syndicats une discussion sur les restrictions budgétaires envisagées. Les menaces de protestation ne peuvent cependant pas arrêter les réformes préparées par le gouvernement. Et le Premier ministre a souligné que son cabinet ne reculera pas et continuera à réaliser son plan de stabilisation des finances publiques, dans le cadre duquel il faudra malheureusement procéder à d'importantes restrictions. Selon le vice-président de la Chambre des députés, Lubomír Zaorálek, la fermeture prévue d'une dizaine de représentations diplomatiques tchèques à l'étranger liquidera le réseau traditionnel de la diplomatie tchèque et paralysera le soutien aux exportations vers l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique du Sud. Lubomír Zaorálek a réagi ainsi à une information du ministère tchèque des Affaires étrangères selon lequel le ministère envisagerait, en raison de restrictions budgétaires, de fermer une dizaine de représentations diplomatiques tchèques en Amérique du Sud et en Afrique. Le ministère tchèque de la Justice a adressé en Suisse une demande officielle d'extradition du ressortissant tchèque Tomáš Pitr. Cet homme d'affaires controversé avait été arrêté par la police suisse le 26 juillet dernier à Saint-Maurice. Selon le ministre tchèque de la Justice, Jiří Pospíšil, le ministère a consulté toutes les spécificités de la demande avec les organes suisses. Tomáš Pitr avait été condamné 2 fois en Tchéquie, mais il n'a pas purgé sa peine et s'est évadé pour se cacher à l'étranger. Météo. Ce vendredi, fête de toutes les ladas, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuagé à couvert avec de fortes pluies, notamment sur le sud-ouest du pays. Les températures se situent entre 20 à 24 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour, pour cette dernière édition des faits et événements de la semaine, on parlera du plus gros réservoir de gaz en Europe dont la construction vient de commencer en République tchèque. Polémique autour des cours d'éducation sexuelle à l'école, des parents demandent le retrait d'un manuel censé orienter les instituteurs dès la rentrée et qui devront inclure l'éducation sexuelle dans leur programme. Ivan Lendl, le grand champion de tennis des années 80, revient sur les cours, ce sera en septembre à Paris. Tous les détails dans quelques instants, bonne écoute de notre programme. Cette semaine a officiellement commencé en République tchèque la construction de ce qui est déjà décrit comme le plus grand réservoir de gaz de son genre en Europe. C'est à Rožná, dans le centre du pays, que ce réservoir d'une capacité de 180 millions de mètres cubes va être bâti à environ 1 km sous terre. Plus d'informations avec Alexis Rosenzweig.
Rožná était jusqu'ici connue pour être le lieu où se trouve la dernière mine d'uranium encore en exploitation dans le pays. Bientôt, ce sera également la localité où l'on stockera le plus de gaz naturel dans un seul et même endroit en République tchèque et peut-être même en Europe. Ladislav Drab préside le conseil d'administration de la société tchèque Plynárenská, qui est à la base de cet investissement estimé aujourd'hui à 9 milliards de couronnes, soit 360 millions d'euros. Le réservoir sera situé dans une partie qui n'a pas été forée, à proximité de la mine d'uranium. On va pouvoir creuser à partir des puits de la mine pour arriver à 1000 mètres de profondeur. La première étape consiste à terminer les études de terrain qui se font là-bas depuis longtemps. Et la deuxième étape consiste à mettre en place le réservoir. En tout, cela devrait prendre environ 6 ans. La société Diamo, qui gère l'exploitation de la dernière mine d'uranium du pays, sera chargée du forage nécessaire pour l'installation de ce réservoir en cavité. Selon Ladislav Drab, le projet est financé par des investisseurs étrangers qui sont ici attirés par un rapide retour sur investissement. Étant donné qu'il s'agit d'un modèle atypique de réservoir déjà utilisé à Haye, près de Příbram, qui permet une utilisation très rapide, l'intérêt est élevé. Ces réservoirs en cavité peuvent être utilisés en temps de crise, notamment lors d'une crise comme celle que l'on a vécue avec les livraisons de gaz russe par l'Ukraine. Un tel réservoir permet de maintenir la pression nécessaire dans les tuyaux et c'est pour cela qu'il suscite l'intérêt des distributeurs de gaz et des investisseurs. La crise du gaz de l'hiver 2009 a en effet eu des conséquences sur les politiques en matière d'énergie et les pays d'Europe centrale comme la République tchèque ont été poussés à anticiper de futures pénuries. D'ailleurs, le nouveau réservoir, une fois achevé, ne servira pas à stocker du gaz russe, mais du gaz norvégien. Ce projet de réservoir a été pour l'instant bien accueilli par la commune de Rožná et ses quelques centaines d'habitants. Comme l'explique la maire de cette commune, Eva Sikorova, tout le monde est conscient que si l'exploitation de la mine d'uranium est interrompue, il y aura beaucoup moins d'opportunités d'embauche. La construction du réservoir devrait permettre la création d'un millier d'emplois. Les habitants ont en tout cas été rassurés sur les potentiels risques que pourrait comporter un tel réservoir de gaz. Selon les responsables des travaux, le fait qu'il soit enterré à 1 km de profondeur est un gage de sécurité amplement suffisant.
Comment parler de sexe aux enfants? À quel âge le faire et de quelle façon? Ces questions, tous les parents se la posent à un moment donné. Et depuis la révolution sexuelle, c'est un sujet qu'abordent les écoles françaises. En République tchèque, une première tentative avait été lancée dans les années 90, mais qui s'était heurtée à une levée de boucliers. Mais à la rentrée, l'éducation sexuelle deviendra un thème à part entière. Et pour cela, un manuel à destination des instituteurs a été préparé. À l'heure où la sexualité n'est plus un tabou, où elle est présente partout, de la télévision à Internet, en passant par la publicité, le besoin d'information se fait crucial pour les plus jeunes. Le précédent gouvernement avait donc lancé la rédaction d'un manuel à destination des instituteurs du primaire et décidé d'introduire des cours d'éducation sexuelle dès le CP et pendant tout le premier degré. Pour Hanna Fivkova, sexologue et co-auteur du manuel, celui-ci a une vocation préventive face à des situations de crise que les jeunes peuvent rencontrer. Une grossesse non désirée, les maladies sexuellement transmissibles, tels sont notamment les sujets abordés, de même que savoir se défendre contre les abus sexuels. Si l'éducation sexuelle est faite correctement, les jeunes gens reçoivent des informations claires et en général finissent par repousser à plus tard leur entrée dans la vie sexuelle. Relations au sein de la famille, différence des sexes, choix de son partenaire, situation à risque font aussi partie des sujets que les professeurs peuvent traiter. Mais avec la rentrée qui approche, des parents s'insurgent contre le manuel et contre les cours d'éducation sexuelle à l'école. Une pétition demandant leur suppression a circulé ces derniers temps, atteignant quelques 6000 signatures jeudi soir. Pour eux, l'éducation sexuelle n'a pas sa place en cours et doit être laissée aux soins des parents. Carolina Kolarova, représentante du Conseil pour la défense des droits des parents, estime que la façon de parler de sexualité aux enfants devrait être d'abord discutée avec les parents. D'après elle, l'école devrait avant tout apporter différents points de vue, notamment ceux de spécialistes.
Si l'école refuse de le faire, nous le prenons comme un non-respect des droits des parents. Le manuel ne nous plaît pas du tout en tant que tel. Nous aimerions que le ministre renonce au manuel complètement. Et de manière générale, nous préférerions qu'il n'y ait pas du tout d'éducation sexuelle à l'école.
Ce vendredi, le ministre de l'Éducation, Joseph Dobech, rencontrait les représentants des parents en colère, mais pour lui, pas question d'abandonner totalement l'éducation sexuelle à l'école.
Je suis tout à fait prêt à discuter de certains points concrets et à trouver un terrain d'entente commun. Mais cela n'implique évidemment pas la suppression de l'éducation sexuelle à l'école.
Les défenseurs du maintien des cours d'éducation sexuelle à l'école arguent pour leur part que la Cour européenne a statué sur cette question suite à un cas similaire au Danemark. Le droit d'un enfant à l'éducation sexuelle prévaut sur le droit des familles à l'éducation de leurs enfants. Ivan Lendl est sans conteste l'une des plus grandes stars de l'histoire du sport tchèque. 16 ans après sa retraite, il commence sérieusement à reprendre la raquette et enchaîne les matchs d'exhibition. Le prochain grand rendez-vous aura lieu à Paris début octobre où le tchèque naturalisé américain partagera l'affiche avec d'autres grands noms du tennis. Alexis Rosenzweig encore.
Certains le considèrent carrément comme le père du tennis moderne. Ivan Lendl a aujourd'hui 50 ans et semble prendre du plaisir à rejouer au tennis 16 années après avoir mis fin à sa carrière pour des raisons de santé. Souffrant de problèmes au dos, il n'a jamais participé aux tournois seniors dans lesquels on retrouve beaucoup d'anciennes gloires de la balle jaune. Son comeback a eu lieu le 10 avril dernier, c'était à Atlantic City aux États-Unis. Un match d'exhibition organisé par une chaise d'hôtel de luxe qui l'opposait à l'un de ses anciens rivaux pour la place de numéro 1 mondial, le Suédois Mats Wilander. Un retour perdant, Ivan Lendl s'est incliné, mais la partie ne se jouait qu'en un seul set. Et surtout, il semble avoir repris goût au jeu. Et contrairement à ses vieilles habitudes, désormais, il lui arrive même de sourire sur le court. Quelques semaines plus tard, il était dans son pays natal pour disputer un match d'exhibition, là encore, contre le joueur tchèque Jiří Novák. C'était début juin et la rencontre s'est soldée par un match nul, 5 jeux partout. Prochaine échéance pour celui qui a tout gagné sauf le tournoi de Wimbledon, ce sera le trophée Jean-Luc Lagardère à Paris le 1er octobre prochain. Avec Lendl, trois autres monstres sacrés du tennis notamment, John McEnroe, Mats Wilander et Yannick Noah. Noah qui fêtera ses 50 ans à l'occasion de ce trophée. Le tournoi sera dirigé par Guy Forget et d'autres anciennes stars des cours devraient venir taper la balle, dont Stefan Edberg et Cédric Pioline. Après cette première participation à ce trophée, qui en est déjà à sa 7e édition, Ivan Lendl a prévu de revenir dans sa ville natale d'Ostrava, à l'est de la République tchèque. Ce sera au début du mois de novembre pour y affronter un autre Suédois, Björn Borg. L'occasion peut-être pour Ivan Lendl de prendre connaissance des disputes et chamailleries tchéco-tchèques à propos de l'œuvre d'Alphonse Mucha, dont il est un grand fan. Il possède la plus grande collection des lithographies de l'artiste, avec une centaine d'affiches.
Depuis jeudi jusqu'à dimanche, Katsov, dans la région de Kutná Hora, accueille le festival Sazava Fest qui souffle cette année ses 10 bougies. Au programme pour les jours restants, Stosvijat, Krzysztof, Monkey Business, Tata Boys, côté tchèque. Côté invités internationaux, les festivaliers pourront voir Papa Roach en concert, mais aussi le guitariste américain d'origine tchèque Ivan Král, qui joue pour Patti Smith, ou encore les légendaires Leningrad Cowboys. On écoute ce groupe au look déjanté avec les chœurs de l'Armée Rouge dans une reprise, plutôt sympathique.
Now why I keep that smile by me? That shit goes inside of you. Now
donc avec les Leningrad Cowboys que s'achève ces faits et événements et tout de suite un peu plus de sérieux avec la rubrique économique.
Économie, commerce.
Mercredi, le gouvernement a présenté son programme de politique générale. Dans ce document d'une quarantaine de pages, les questions économiques sont prédominantes. La réduction des déficits publics est le leitmotiv du nouveau gouvernement qui s'est doté d'un organe de conseil économique, le NERF. Créé sous le gouvernement Topolánek en 2008, au plus fort de la crise financière internationale, le NERF avait suspendu ses activités avec l'arrivée du gouvernement intérimaire de Jan Fischer, 9 mois après sa naissance. Entre-temps, il avait tout de même réussi à présenter un plan anti-crise, partiellement suivi, et malgré sa dissolution, sa mission avait été évaluée comme positive. C'est probablement la raison pour laquelle Peter Nečas a voulu relancer cette initiative, et malgré un rôle strictement consultatif, le Premier ministre semble vouloir montrer l'importance qui sera accordée aux propositions de ce nouvel organe.
Čistě hypoteticky nemohu vyloučit, že v některých věcech Národní ekonomická rada vlády přesvědčí.
On ne peut pas exclure que sur certains points le Conseil économique puisse convaincre le gouvernement de changer de position qui sont le résultat d'un compromis de la coalition. Et ceux qui resteront sur ce compromis seront peut-être convaincus par ces experts économiques que leur point de vue n'est pas raisonnable et changeront à ce moment-là d'avis. Nous voulons respecter l'indépendance du potentiel intellectuel de cet organe.
Le Conseil économique du gouvernement est tout de même loin de ressembler, par exemple, au Conseil économique et social français, cette assemblée constitutionnelle consultative qui regroupe les représentants de la plupart des acteurs économiques du pays, syndicats d'employés et de dirigeants d'entreprises, artisans, familles, etc. En République tchèque, il était composé de 10 experts économiques sous le gouvernement Topolánek. Petr Nečas a fait appel à 5 experts de plus, parmi lesquels certains l'ont connu, comme Tomáš Sedláček, un jeune économiste souvent invité des plateaux télévision, ou encore 2 ex-ministres des Finances, Eduard Janota sous le gouvernement intérimaire de Jan Fischer, ou Jiří Rusnok sous le gouvernement Špidla de 2001 à 2002. Certains de ces spécialistes ont construit leur carrière dans des banques, qu'il s'agisse de banques privées ou de la Banque nationale tchèque, d'autres dans des multinationales ou dans les universités, mais tous ont déjà eu plusieurs postes de conseillers et la plupart d'entre eux sont déjà intervenus au service des gouvernements successifs. Enfin, certains avaient déjà fait partie du premier conseil économique du gouvernement, comme Miroslav Zamečník, Jerzy Schwartz ou Peter Zahradník. On écoute d'ailleurs Peter Zahradník qui, fort de son expérience avec le NERF version 1, explique comment il conçoit la restauration de cette institution. On l'écoute.
Le premier NERF est né ad hoc à l'époque de la crise et à l'époque du début de la présidence de la République tchèque de l'Union européenne, alors que le gouvernement était en plein dans son mandat. Tandis que ce NERF-là commence en début de mandat du nouveau gouvernement, j'ai le sentiment qu'il y aura beaucoup plus de place pour des conceptions et des analyses à long terme, plutôt que ces solutions ad hoc pratiques et opérationnelles comme cela avait été exigé lors de la présidence tchèque de l'Union et pour réagir rapidement à la crise.
Les missions de ce Conseil économique du gouvernement ont été en effet clairement définies par le gouvernement de coalition. On écoute Petr Nečas.
Premier domaine, c'est la stabilisation du déficit public et de la dette. Deuxième domaine, la réforme des retraites. Le troisième, la lutte contre la corruption et pour la transparence des marchés publics. Le quatrième domaine est celui des politiques économiques dans le cadre de l'Union européenne. Le cinquième point est celui du maintien de la compétitivité du pays. Et le sixième, celui du soutien à l'entrepreneuriat.
« Les objets de travail des 15 experts du Conseil économique du gouvernement sont donc précisément déterminés. Sans surprise, ils correspondent aux priorités définies pendant la campagne électorale et après la formation du gouvernement par les trois partis de la coalition. On écoute les commentaires de Tomáš Sedláček, jeune économiste très en vue et très prometteur, qui était d'ailleurs déjà membre du premier NERF.
Et j'ai parcouru le programme et par exemple la question de l'euro qui a un peu disparu des médias. Il apparaît avec la définition d'un délai et la volonté de tenir ce délai pour l'introduction de la monnaie européenne en République tchèque. C'est une position avec laquelle je suis d'accord. Je suis content que le gouvernement se penche sur la corruption. Parler des investissements et des exportations est aussi légitime et la volonté de transformer notre économie d'une économie un peu lourde, comme dans les années 1990, vers une économie plus légère, sur le modèle finlandais par exemple, et non pas une économie où domine l'automobile ou la production industrielle. On devrait se diriger plutôt vers la valeur que la matière, la qualité plutôt que la quantité.
La création ou refondation de ce Conseil économique du gouvernement laisse cependant quelques observateurs sceptiques, et notamment l'opposition politique, pas tant sur la composition du Conseil, puisque ses membres sont d'obédiences politiques différentes, mais sur l'efficacité de ce Conseil. Bohuslav Sobotka, chef intérimaire de la social-démocratie tchèque.
Je ne crois pas que ce conseil soit complètement inutile, mais le gouvernement doit compenser le fait qu'il n'a pas de politique économique propre. Si l'on regarde la déclaration de politique générale, il n'y a aucun objectif concret clairement défini. Il n'y a rien qui pourrait soutenir l'emploi et je pense que Petr Nečas, en fondant à nouveau le NERF, fait en sorte de cacher le fait que le gouvernement actuellement n'a pas de stratégie économique clairement définie.
Les partis de l'opposition vont donc surveiller de près ce Conseil économique du gouvernement. Il est difficile de savoir effectivement quel sera le réel pouvoir de cet organe, son audience et la façon dont il pourra être utilisé dans les médias, parfois peut-être pour justifier de mesures impopulaires. Ces recommandations pourraient également se heurter à certaines démarches électorales lors des prochaines campagnes de l'automne prochain. Quoi qu'il en soit, des rencontres régulières chaque mois devraient avoir lieu entre les 15 membres du Conseil et ces derniers devraient être en contact étroit avec différents ministères. On écoute Tomáš Sedláček sur la collaboration entre le NERF et le gouvernement.
Je suppose que le Premier ministre Petr Nečas respecte les ministres qui avaient l'habitude de consulter le NERF et qu'il ne nous utilise pas pour une sorte de parade. Les membres du Conseil ne sont pas payés, c'est un travail bénévole, donc si le gouvernement ne nous considère pas que c'était seulement un coup médiatique et que nous sommes là seulement pour la parade, le Conseil se dissoudrait de lui-même. Mais je suis content qu'un gouvernement ait renoué avec ce mode de consultation avec des experts. Je serais personnellement content si des organes comme le NERF apparaissaient pas seulement dans le domaine économique, mais aussi par exemple dans l'art, la culture, les transports, etc.
Le NERF a eu sa première réunion jeudi 5 août. À noter qu'à l'image du gouvernement, il ne compte malheureusement aucune femme parmi ses membres.
C'est la fin des émissions en langue française de Radio Prague. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.